Bonjour à toutes et à tous, Fabien du cinéma Le Bourguet de Fort-Calquier, cinéma RSC situé sur la place du Bourguet au cœur de la ville de Fort-Calquier. Je vous parle d'une semaine de transition à cheval sur deux années. Semaine du 27 décembre au 2 janvier, ultime semaine donc pour, on l'espère, atteindre le chiffre, le cap des 30 000 entrées en cette année 2023. Ce serait une bonne surprise. Six films pour cela sont à l'affiche. Ces films pour bien finir cette année et en commencer une autre. Milady, c'est le film de Martin Bourboulon qui est le deuxième volet de son diptyque adaptation des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est dire que c'est un gros morceau. Les Trois Mousquetaires, évidemment, un feuilleton. Tout d'abord en 1844, publié dans le journal Le Siècle de mars à juillet 1844 par Alexandre Dumas, qui publie ensuite ses aventures en volume la même année. Et c'est un succès phénoménal qui connaîtra une suite avec le roman 20 ans après en 1845. Et puis aussi, on l'oublie trop souvent, un troisième volet qui s'appelle Le Vicomte de Bragelonne, édité en 1847. Alors il y a eu énormément d'adaptations au cinéma du roman Les Trois Mousquetaires. C'est simple, la première, c'était il y a tout juste 120 ans, par Georges Méliès, en 1903, avec Les Mousquetaires de la Reine, donc un film dont les bobines ont été perdues depuis lors. Et de 1903 à 2023, c'est simple, il y a eu, chaque décennie, plusieurs adaptations cinématographiques des Trois Mousquetaires. Donc évoquons celle-ci un petit peu. Elle a ceci donc de particulier d'être un diptyque. Le premier volet était centré sur le personnage de D'Artagnan, comme c'est le cas en général. Mais ce deuxième volet est centré, lui, sur le personnage de Milady de Winter, qui est interprété par Eva Green. Et je dois dire que c'est là un peu ce qui fait la particularité et la pertinence de cette adaptation, en plus d'être globalement quand même très réussi en termes de spectacle, de rebondissement. C'est d'abord un casting formidable, François Civil en D'Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Romain Duris en Aramis et Pio Marmaille en Porthos. Mais d'avoir saisi l'occasion de ce personnage qui est une vraie création d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires étant par ailleurs attestés historiquement, hein, dans des mémoires auxquelles Alexandre Dumas s'est référé, mais il a créé ce personnage de Milady de Winter, qui trouve ici en 2023 dans cette adaptation une modernité plutôt bienvenue et formidablement interprétée par Eva Green, qui conserve toujours une étrangeté et une dimension mystérieuse qui convient bien là à ce personnage. À leur côté, je continue, hein, la distribution, Lina Koudry qui est toujours impeccable, en Constance Bonacieux, Louis Garrel qui était formidable dans le premier volet, qu'on voit hélas trop peu ici en Louis XIII, Vicky Cripps également, et Marc Barbet, qui est un acteur trop méconnu dans le rôle du capitaine de Tréville. Je pourrais continuer, la distribution est longue. Ne boudons pas notre plaisir, il est plutôt bienvenu ici, en cette semaine entre Noël et Jour de l'An. Martin Bourboulon, je le rappelle, c'était le réalisateur des excellentes comédies qui étaient Papa ou Maman 2, c'était en 2015 et 2016. Eiffel était beaucoup moins notable, c'était sa adaptation avec Romain Duris, donc adaptation du moins de la vie et du challenge de Gustave Eiffel autour de cette tour, évidemment. Et puis là, je pense qu'il a trouvé quelque chose dans ce registre du film de KPDP, du film d'aventure, dans ce mélange des genres qu'offrent Les Trois Mousquetaires, voilà, qui lui réussit pleinement. Et pour notre plaisir, donc Les Trois Mousquetaires, Milady, c'est ce deuxième volet des aventures des Trois Mousquetaires pour 6 séances cette semaine à Fort-Calquier, entre le 27 décembre pour la première, ce mercredi, et le 2 janvier, c'est mardi prochain, pour la 6e et dernière séance du film.
C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux.
Où est-elle?
Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée.
Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi.
Qu'avez-vous fait d'elle?
Vous me paierez cette offense.
Il me dira où elle est ou je jure de le tuer.
Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté.
Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non.
Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi.
Mousquetaire. Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on met.
c'est lui le traître.
Je ne suis pas l'homme que vous croyez.
Un seul geste et je vous tue.
Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance.
Changement de registre complet avec un film que vous attendez, j'espère, peut-être, parce que le bouche à oreille est forcément excellent pour ce film, tout en délicatesse, en pudeur, et qui raconte une histoire très belle, très forte, et qui sans doute va susciter beaucoup d'empathie, de reconnaissance peut-être, de choses vécues par l'une et l'autre d'entre vous. Ce film s'appelle Past Lives, en anglais, Nos vies d'avant, pour le sous-titre français. Et c'est une vraie découverte, une vraie surprise. Je ne connaissais absolument rien, ni du film, ni de la réalisatrice, Céline Song, qui est une réalisatrice qui a 35 ans, et qui raconte en partie son histoire ici. C'est un film dont l'action se situe entre la Corée du Sud et les États-Unis. On sait que le personnage principal, interprété par Greta Lee, qui est elle-même d'origine sud-coréenne, son personnage est passé par le Canada avant d'arriver aux États-Unis, et c'est exactement l'histoire de la réalisatrice Céline Song. C'est très, on sent quelque chose de très personnel et par cela même de très sensible. Ne ratez surtout pas la première scène du film, qui à la fois en révèle quelque chose de la teneur, du mystère aussi, des destinées de chacun des personnages qui sont dans ce premier plan, puisque cette scène est un premier plan. Le point de vue qui est adopté ici sera celui, en tout cas la sensibilité avec laquelle sera racontée toute l'histoire à venir, sous forme de flashback en quelque sorte, à moins de considérer cette première scène comme un flash-forward en quelque sorte, ou d'un film qui se situe en quelque sorte sur plusieurs temporalités. On commence avec des personnages qui ont 12 ans, puis on est 12 ans après, puis encore 12 ans après, donc 24 ans, pour suivre deux personnages principalement. Tout d'abord en Corée du Sud, et puis l'exil, le choix d'une famille, de la jeune fille, de partir au Canada, puis pour ces mêmes personnages aux États-Unis. Et c'est vraiment le destin de ces personnages, de se dire qu'à ceux-ci près, peut-être, que serait devenue leur vie. Et quand ces personnages se retrouvent 24 ans après, de s'interroger sur les bifurcations, y compris la vie de l'une, la vie de l'autre. C'est une histoire d'amour qui ne dit pas son nom, platonique, et qui franchit l'épreuve des décennies. Tout cela peut-être, avec ces mots, reste assez abstrait, mais vous allez voir que vous allez être très très touché, parce que les interprètes sont formidables. Je citais le nom de Greta Lee, qui est nommée au Golden Globe de la meilleure actrice pour un film dramatique, et qui le sera assurément aux Oscars aussi. C'est une actrice et écrivaine américaine. Et puis vous allez retrouver Theo Yu, qui est un acteur sud-coréen, qui avait interprété le rôle de Victor Tsoi dans le film de Kirill Serebrennikov, Leto, ça vous dira peut-être quelque chose. Et à leur côté, dans un rôle secondaire, mais très très juste en tout cas, vous retrouverez John McGarrow, dont le nom ne vous dit rien, mais c'était un des deux acteurs principaux du film de Kelly Reichardt, First Cow, que l'on retrouvait aussi dans un rôle secondaire dans le dernier film de cette même réalisatrice, Showing Up. Mais souvenez-vous que c'est l'acteur américain de First Cow, vous allez le retrouver ici avec plaisir. Donc Céline Song, dont c'est le premier film qui a beaucoup circulé dans les festivals, qui a été repéré notamment au festival de Sundance, et qui voilà, se révèle ici avec ce film infiniment poignant, qui est un film idéal, je dois vous dire, entre Noël et Jour de l'An, pour rassembler les émotions d'une année, les sentiments, toutes ces impressions, et de s'interroger sur nos vies, notre vie à chacun, sentimentale, sensible, amoureuse peut-être. Voilà, ce film donc s'appelle Past Lives et il est programmé pour 5 séances cette semaine.
There's a word in Korean, inyeon. It means providence or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny.
Shh, Shut up.
He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him.
Did he miss you?
Hae-sung!
Wow, 너다.
Wow.
Wow.
진짜 와다.
Wow. Not really sure how to feel about it, son. And the way you move makes me feel like I can't live without you.
뭐가?
그냥 너랑 얘기하는 거?
The guy flew 13 hours to be here. I'm not going to tell you that you can't see him or something.
만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면 내가 널 찾았을까? 우리가 사귀었을까? 헤어졌을까? 부부가 됐을까? 아이들을 가졌을까?
너는 나를 왜 찾았어?
한 번 더 보고 싶었어.
If two strangers walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, that means there have been 8,000 layers of inyeon between them.
Want you to stay. Want you to stay.
Wish, Asha et la bonne étoile, c'est le nouveau Disney, le fameux Disney de Noël. Disney peut-être qui, dans le registre de ses films d'animation de Noël, ça a fait le succès, évidemment. Moi, j'ai souvenir enfant d'aller avec mes parents, ma mère en tout cas, voir le Disney de Noël. Ça a été de grandes réussites par le passé. Et puis là, ces dernières années, ils ont fait l'impasse sur les salles de cinéma. Mal leur en a pris. Certains films ont été diffusés directement sur la plateforme Disney+. Ils nous reviennent ici avec un film qui n'est pas forcément le meilleur du genre, mais qui quand même fait le job en quelque sorte. C'est un film de Chris Buck et Fawn Verasundhorn. Chris Buck, pour mémoire, c'est quand même le réalisateur de La Reine des Neiges en 2013, de La Reine des Neiges 2, film écrit avec Jennifer Lee, qui est aussi au scénario, et c'est la bonne nouvelle quand même de cette histoire. Jennifer Lee a fait ses preuves avec La Reine des Neiges, Chris Buck aussi, on les retrouve ici. Pour un film qui n'est pas une énième ressucée d'un conte plus ou moins oublié, ou d'un conte d'Andersen, ou que sais-je, c'est une histoire originale, et on retrouve quand même un petit peu ce qui fait la touche de ce réalisateur et de cette scénariste, et on pense notamment à La Reine des Neiges, justement. Wish, donc, Asha, ou La Bonne Étoile, eh bien, il est programmé cette semaine pour 6 séances, il est recommandé à partir de 5-6 ans. Et assurément, le film connaîtra le succès que l'on attend pour le Disney de Noël, et on s'en réjouit, voilà. Il est recommandé à partir de 5-6 ans.
3, 2, 1...
Asha !
Je suis là, je suis là ! Oh, laissez-moi une seconde que je reprenne mon souffle.
Il était une fois Rosas, un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux.
Vous êtes leur magnifique roi bien-aimé.
C'est vrai, je suis un roi magnifique.
Je suis tellement nerveuse, j'ai l'impression que je vais exploser.
Ma meilleure amie, apprentie du roi.
J'ai la mâchoire bloquée, j'ai l'impression que le bloquer.
Asha, viens avec moi. Les vœux de Rosas.
Wow.
Les gens me confient leurs vœux et j'exauce ceux dont je suis sûr qu'ils sont bénéfiques pour Rosas.
Certains de ces vœux ne seront jamais exaucés?
Pas certains, la majorité.
Ils méritent. Mieux.
C'est moi qui décide ce que chacun mérite.
On en vient à un film qu'on est très heureux de partager avec vous. Il s'appelle Ricardo et la peinture. C'est un film d'un réalisateur qui est trop méconnu. Et on va en saisir ici l'occasion pour parler de lui. Ricardo et la peinture, c'est le nouveau film de Barbet Schroeder. Alors, vous connaissez peut-être vaguement son nom. C'est un réalisateur franco-suisse qui est né à Téhéran en 1941. Un homme de l'ombre de ce qu'on a appelé la nouvelle vague en France. Il a créé à l'âge de 21 ans seulement les films du Losange, qui viennent de fêter leurs 60 ans, et on les fête avec eux en quelque sorte, puisqu'en plus de ce film-ci, quand même, le cycle stage qui a lieu tout cet hiver, c'est les films du Losange. La rétrospective Wenders qui a lieu en ce moment même, c'est les films du Losange également, les films de Lars von Trier également. Beaucoup de films, surtout beaucoup les films de Romer, et c'est précisément... dans les pas d'Eric Rohmer que Barbet Schroeder a commencé, c'est avec lui qu'il fonde les films du Losange, et c'est auprès de lui, en tant qu'assistant de Rohmer et en tant que producteur d'Eric Rohmer aussi, qu'il va débuter, très jeune donc, et à la fin des années 60, il va passer à la réalisation avec un film fameux, More, avec un autre 3 ans plus tard, La Vallée, qui l'est tout autant, et il va... au fil d'une filmographie extrêmement étonnante, hétéroclite, entre fiction et documentaire, constituer une œuvre forte, qui sera quand même l'une des rares d'un cinéaste français qui tient vraiment la route pour ce qui est de ses films réalisés à Hollywood, notamment Barfly, avec Mickey Rourke, avec Fight and Away en 1987, c'est lui. Le Mystère von Bülow, avec Jeremy Irons, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur, c'est lui aussi. Jeune fille partagerait appartement, c'est lui également, vous voyez, une filmographie qui s'est enrichie de films vraiment étonnants. La Vierge des Tueurs, tournée je crois en Colombie en 2000, c'est lui également. Il avait vécu d'ailleurs en Colombie enfant. L'Avocat de la Terreur, bien sûr, ce film documentaire qui porte sur Jacques Vergès, c'est encore lui. Et c'est un homme quand même d'une liberté extraordinaire, souveraine, qui avance, qui trouve les moyens de ses ambitions et qui assume pleinement sa liberté de création. Ricardo et la peinture, alors c'est un film qu'il réalise alors qu'il a plus de 80 ans, dans une grande humilité, il donne la parole à son ami, le peintre français d'origine argentine qui vit en Bretagne, à Saint-Jean-du-Doigt, et c'est important de le préciser parce que ce peintre est éminemment ancré dans la vie sociale, culturelle, locale de ce village, où on le retrouve à la fois... en bord de mer, arpentant les rochers au bord des falaises, allant peindre sur le motif, comme le faisait Cézanne, en chaussant pour cela des cuissardes pour passer à marée basse dans les flaques que laisse la mer. Et donc, Barbet Schroeder lui donne la parole, et il fait bien, car c'est un homme passionnant, qui irradie vraiment de lumière. C'est un homme généreux, qui s'avère être un passeur d'une certaine histoire de l'art, qui parle avec enthousiasme, avec une sorte de franchise, de sincérité. Et c'est pourquoi on a associé ce film à L'ombre de Goya, qu'on vous a montré la semaine dernière, le film de José Luis López Linares, autour de Jean-Claude Carrière, lui aussi merveilleux passeur de la peinture de Goya. Ici, alors on n'est pas axé sur un seul peintre, et même si... Cavallo va beaucoup évoquer Velázquez, vous le verrez, c'est absolument passionnant et très très touchant la façon dont il en parle. Il va parler de sa pratique à lui, avec infiniment d'humilité là encore, et on sent que Barbet Schroeder, dans la façon dont il filme son ami, est clairement influencé par les qualités qui lui sont propres, et le film habité par celle-ci également. Mais Ricardo Cavallo a créé une école de peinture dans son village de Bretagne, et on le voit avec des enfants, avec des adultes, enseigner de manière très très simple et lumineuse la peinture telle qu'il la conçoit, se portant vraiment à l'écoute aussi de chacun et de chacune, et sachant trouver les qualités propres à chacun et à chacune. C'est un très très beau film qu'on a voulu ancrer comme ça dans ce focus autour qu'on a appelé « Approche de la peinture », une façon d'aborder l'histoire de l'art et de voir la peinture autrement. Le film est notamment programmé ce samedi à 18h30, mais il y a une première séance à 16h ce jeudi et une ultime séance à 14h le mardi 2 janvier. Ce film s'appelle Ricardo et la peinture. Vous allez voir aussi des moments assez poignants où l'amitié vraiment qui existe entre Ricardo Cavallo et Barbet Schroeder apparaît manifestement et physiquement à l'écran où le réalisateur est présent à l'image, mais on sent même dans les questions qu'il pose, dans la façon dont il filme, toute l'admiration et l'amitié qu'il a pour lui. Donc ce film, Ricardo et la peinture, pour 3 séances à Fort Calquier cette semaine.
C'est un peu obscène de venir voir un peintre et lui poser question pendant qu'il peint.
Et même, je te dirais que c'est une sacrée gageure de vouloir faire un film sur la peinture.
Qu'est-ce quel est le premier peintre qui a travaillé dehors?
On va essayer de réfléchir ensemble. En sentant qu'il pouvait dire autant de choses sublimes seulement avec un pinceau et une palette, ça m'a complètement changé la vie, bouleversé, et m'a fait poser plein de questions à partir de là. C'est comme si j'essayais de faire un parallèle d'un côté, suivre des maîtres, et un autre, dessiner et peindre comme si personne n'avait dessiné et peint. L'idée de l'école, c'est quelque chose qui m'accompagne, pour ainsi dire, depuis toujours.
Trois séances, c'est également le nombre de séances de rattrapage qu'on a voulu vous proposer pour le dernier film de Miyazaki. Alors dernier, il est probable que ça le soit en effet. Un film qui vient s'ajouter comme un bonus alors que, une fois de plus, il avait annoncé sa retraite en 2013 après Le Vent se lève. Eh bien tant mieux pour nous, tant mieux pour lui aussi, avec un film qui est sans doute l'un de ses chefs-d'œuvre, qui s'avère être une somme un peu et une synthèse de tout ce qu'il a fait. C'est son 12e long métrage à Miyazaki, réalisateur évidemment depuis Le Château de Cagliostro en 79, de Totoro évidemment en 88, de Princesse Mononoke en 97, du Voyage de Chihiro en 2001, de Ponyo en 2008 notamment. Et on revient à la fois aux fondamentaux, on reconnaît pleinement graphiquement et thématiquement l'œuvre de Miyazaki, avec vraiment les problématiques qui lui sont propres. Il s'est entouré, comme il l'a toujours fait ici, de Joe Hisaishi, notamment pour ce qui est de la musique du film. Et c'est une grande réussite que cette énième collaboration. Pour un film qui est adapté d'un roman de Gensaburo Yoshino, qui est assez connu au Japon, qui porte pour titre « Et vous, comment vivrez-vous ?» Et c'est le titre original japonais du film de Miyazaki qui s'appelle en France « Le garçon et le héron » qu'on a repris ici donc pour deux séances en VF ce mercredi 27 à 14h et ce vendredi 29 à 21h. Et « Le garçon et le héron », on s'en réjouit, sera le dernier film projeté en cette année 2023 à Fort-Calquier puisqu'il est montré le dimanche 31 à 17h30 et j'insiste en version originale. Je prévois de le revoir avec vous à cette occasion. 17h30, dimanche 31, avant le réveillon. Le film se terminera vers 19h30, ce sera le moment de l'apéro. Venez, rejoignez-nous pour voir ou revoir Le Garçon et le Héron ce dimanche 31 à 17h30 en version originale.
Maito.
Maman.
Sauve-moi. Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman.
Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir.
Maito, sauve-moi!
Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts.
Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde.
Mais toi, d'où tu viens?
Cette mer, ici-bas, est maudite.
Restez vigilants. Et unissez vos forces.
Maito! Maito!
Maito, je suis à la recherche de mon successeur.
C'est toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sauve-toi, Maito!
Dans mon monde, il reste tant de choses à faire. Maito, accepterais-tu de continuer mon œuvre?
On en vient donc au dernier film dont on vous parlera cette année. C'est le film qui s'inscrit dans cette rétrospective Wim Wenders, et plus particulièrement dans la trilogie de la route ou trilogie de l'errance ou du voyage qu'on a entamé la semaine dernière. Avec Alice dans les villes, le film s'appelle Faux mouvement, Falsche Bewegung en allemand. C'est une adaptation très très libre des années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe, écrit en 1795-96, quelque chose comme ça. Le casting est épatant, vraiment. On y retrouve Rudiger Fokl, évidemment, dans le rôle de Wilhelm, cet écrivain qui fuit sa ville natale pour gagner Berlin et devenir écrivain, et à ses côtés notamment Anna Chigula, qui a, je viens de le découvrir cette semaine, le 25 décembre, qui a 80 ans, actrice, comme on dit, fétiche de Fassbinder dans les années 70 et début des années 80. À leur côté, Nastasia Kinski, qui est toute jeune ici, elle a 15 ans, 16 ans peut-être, même pas, 15 ans, lorsqu'elle réalise ce film, et Nastasia Kinski, qu'on retrouvera évidemment chez Wenders en 1984 dans Paris, Texas. On retrouve également Lisa Kreutzer, qui joue dans tous les films de Wenders de cette époque, c'était la compagne de Wenders en ce temps. Et le film ici est en couleur, et il y a une vraie continuité évidemment entre Alice dans les villes et avant Au fil du temps, qu'on vous montrera la semaine prochaine. C'est un film, un très beau film, donc on espère que vous le découvrirez avec nous ici, qui le revoyons à cette occasion. Faux Mouvement, en plus, c'est un scénario, donc d'après Goethe, de Peter Handke, avec qui Wenders a beaucoup travaillé dans ses années 70. Peter Handke, l'écrivain, dramaturge, réalisateur aussi lui-même, autrichien, prix Nobel de littérature il y a quelques années. Et on retrouve tous les collaborateurs en fait de Wenders, notamment Robbie Muller à l'image, image toujours superbe chez Wenders dans ces années-là. Pour ce film donc, Faux Mouvement, montré ce jeudi 28 décembre à 18h30, et une seconde séance aura lieu ce samedi 30 décembre à 14h. J'en ai terminé, je vous souhaite un bon réveillon. Avec Raphaël, on vous souhaite également une heureuse année autant que possible, une heureuse année 2024. Et côté cinéma, on va s'en charger. Hein, on va vous proposer de beaux films, puisqu'il y en a déjà beaucoup qui sont annoncés pour cette prochaine année. Donc, heureuse année à vous, et à la semaine prochaine, et donc à l'année prochaine. À très vite.